Donc, on a la joie, l'honneur d'avoir le professeur Ettemann avec nous, qui va nous présenter justement cette conférence sur Gustave Moynier et voilà, donnera des explications par rapport à son parcours. Moi, je dis juste voilà, que je sais qu'il a une licence en lettres et un doctorat en économie. C'est juste ?
À peu près, oui.
Voilà, je le laisserai se présenter. En tout cas, voilà, il est professeur d'histoire aussi à l'Université de Genève et... voilà, on va laisser aussi...
Retraité.
Oui, donc voilà, on vous souhaite la bienvenue.
Merci.
Et puis je veux juste aussi préciser pour tout à l'heure, quand on aura un moment de convivial, donc un petit repas ensemble, n'hésitez pas à la fin poser des questions et puis surtout à signer la carte qui circule pour Roger Durand, qui est donc encore hospitalisé, qu'on salue énormément. Et voilà, donc la place est à vous.
Très bien, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais dire que votre président m'a téléphoné très aimablement pour m'annoncer son absence aujourd'hui, mais je sais qu'il m'écoutera et qu'il exercera à cette occasion, et on en a parlé, son esprit critique. Je suis très content d'être de nouveau parmi vous. Ça fait 4 mois que le temps a passé et je vous avais présenté... Henri Dunant et ce que Dunant avait dit par rapport à la colonisation et l'esclavage. Aujourd'hui, une autre personnalité que vous connaissez évidemment toutes et tous, Gustave Moynier, qui a partagé beaucoup avec Henri Dunant. Ils sont contemporains, ils ont collaboré, ils ont œuvré évidemment dans le même sens. J'aimerais répéter peut-être ce que j'ai dit il y a 4 mois, à savoir que je ne suis ni un spécialiste d'Henri Dunant, ni un spécialiste de Gustave Moynier. Ces deux personnalités sont apparues lorsque je me suis intéressé à certains hommes de lettres de Genève entre le milieu du 18e et l'entre-deux-guerres pour voir si... ils avaient écrit quelque chose sur 2 thèmes sur lesquels j'ai beaucoup travaillé pendant mon mandat universitaire, à savoir la colonisation et l'esclavage. Henri Dunant s'est exprimé sur ces 2 thèmes, Gustave Moynier principalement sur la colonisation. Il a écrit quelques lignes, quelques passages sur l'esclavage, mais très peu. Même si vous connaissez Gustave Moynier, j'aimerais juste vous rappeler, je dirais, son profil, sa personnalité. C'est un enfant unique d'un père commerçant en horlogerie et d'une mère fille d'un banquier parisien. Je crois que c'est aussi intéressant de rappeler que Gustave Moynier baigne dans un milieu que l'on pourrait dire choisi, cultivant le sens du civisme, le dévouement au protestantisme, la tempérance et la discrétion comme vertu. Il est connu, et ça, c'était peut-être pas nécessaire que je le rappelle, mais il faut le dire, c'est le cofondateur de la Croix-Rouge et de l'Institut de droit international. Il est connu à Genève principalement pour ses activités philanthropiques qui sont extrêmement nombreuses et variées. En Suisse, il adhère à une multitude de sociétés de bienfaisance, il y donne des conférences et mène des enquêtes sur les institutions charitables. À l'étranger, il participe à plusieurs congrès internationaux de bienfaisance à Bruxelles, Francfort et Londres. Gustave Moynier a beaucoup publié. Il a beaucoup écrit. Seule celle qui concerne l'Afrique subsaharienne, que l'on appelait avant l'Afrique noire, retiendront aujourd'hui mon attention, étant entendu. Souvent, lorsque je fais cette remarque, les personnes oublient, étant entendu que ces publications sur l'Afrique ou ces activités autour de l'Afrique ne constituent qu'une part réduite d'un ensemble très imposant. Alors, Gustave Moynier s'est intéressé à l'Afrique. La question, c'est comment expliquer cet intérêt pour un continent lointain qu'il qualifie lui-même, je cite, de mystérieux, et comment comprendre ou expliquer son soutien à l'œuvre que l'on appelait, au XIXe siècle, civilisatrice, que le roi des Belges, Léopold II, dit vouloir accomplir dans cette partie centrale du continent, encore largement inexplorée. Alors, il y a deux manières d'essayer d'expliquer cela. J'aimerais juste ouvrir une parenthèse ici. Je me suis inspiré des biographes, évidemment, de Gustave Moynier. Ils sont au nombre de trois. Si vous voulez les connaître, je les citerai tout à l'heure, avec les dates de publication de leur ouvrage. Mais voilà comment on peut, et je reviens à la question que je me posais, comment on peut, d'une première manière, expliquer cet intérêt de Gustave Moynier pour le continent africain et pour le projet de Léopold II, le roi des Belges. Première explication. Léopold II présente son projet comme une entreprise humanitaire et désintéressée. Si Gustave Moynier y adhère, c'est qu'il le juge conforme à son engagement philanthropique. Donc il y a une cohérence ici, chez Moynier. Voici, pour rappel, comment Léopold II présente son projet africain dans un discours d'ouverture qu'il prononce à la conférence géographique de Bruxelles en 1876, je cite « Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est d'ouvrir à la civilisation la seule partie du globe où elle n'a pas encore pénétré, percer les ténèbres qui enveloppent des populations entières, c'est, j'ose le dire, une croisade digne de ce siècle de progrès. » Deuxième explication possible de l'intérêt de Moynier pour l'Afrique. Son adhésion au projet de Léopold II tient à l'attachement que Moynier porte au roi des Belges. Il y a un lien ici, très particulier. Attachement qui, selon certains biographes, frise la fascination. En juin 1877, se tient à Bruxelles, il y a beaucoup d'épisodes que l'on pourrait retenir pour illustrer ce lien. J'en ai retenu un, celui-là. En juin 1877, se tient à Bruxelles une réunion internationale sur le projet léopoldien à laquelle participe Moynier à titre privé. Gustave Moynier doit rédiger un rapport sur cette conférence. Et voilà comment il s'exprime dans celui-ci. J'exprime, c'est une citation, j'exprime le vœu, c'est Moynier qui parle, que la Suisse s'associe largement et généreusement à l'œuvre africaine du roi des Belges. Et Moynier ne doute pas du soutien de la Confédération à ce qu'il appelle cette entreprise grandiose et féconde. Que s'est-il passé à Bruxelles pour que Moynier, à titre privé, sollicite de cette manière la Suisse officielle qui, soit dit en passant, ne donnera pas suite à son appel? Il semble que le roi des Belges et assez rapidement décelé une corde sensible à toucher chez le Genevois, président en exercice à ce moment-là du Comité international de la Croix-Rouge, dont le roi des Belges cherche à gagner les faveurs pour asseoir la crédibilité de son projet congolais. Si vous voulez, ici, il faut bien le dire, il y a une instrumentalisation par le roi des Belges de Gustave Moynier. À Bruxelles, mais il y a aussi un peu autre chose. À Bruxelles, Moynier est logé au Palais Royal. Et il se montre très sensible aux fastes donnés à l'événement et aux égards qui lui sont réservés. Avant de quitter le palais, il note, je cite, « Le dernier jour de la session, chaque délégué reçut une décoration, souvenir princier du maître du loge. J'eus pour ma part une croix de commandeur et lors du départ, un aide-de-camp m'accompagna à la gare dans une voiture de la cour. C'était le digne couronnement d'une luxueuse réception. » À partir de ce moment-là, Moynier va prendre toute une série d'initiatives, va faire des démarches, va ne pas compter son temps, faire des efforts pour promouvoir le projet africain du roi des Belges. Il se rend compte d'abord qu'en Suisse, les autorités et la population ne s'intéressent pas beaucoup à ce qu'il appelle la cause léopoldienne. L'idée lui vient alors de créer quelque chose qui est un périodique couvrant, je cite, « toutes les tentatives par lesquelles des groupes multiples s'efforceraient de dissiper à l'envi les ténèbres de l'Afrique. Il concrétise rapidement cette idée en lançant en juin 1879 une revue qui est très célèbre parmi les historiens à Genève qui travaillent sur la colonisation ou plus généralement sur l'expansion européenne de l'Europe, parce que c'est une revue qui est de qualité. C'est une revue qui a duré pendant un certain temps, je vais vous dire combien d'années. C'est une revue qui a été recensée et louée par tous les observateurs de l'époque comme étant le périodique qui comptait. Il s'appelle L'Afrique explorée et civilisée. Vous pouvez le consulter en ligne sur le site de la Bibliothèque de Genève aujourd'hui. Elle est éditée à Genève, cette revue, pendant 15 ans. Et 6 mois avant sa création, Moynier écrit à Léopold II pour lui annoncer, je cite, « sa volonté de seconder les vues civilisatrices de votre majesté en leur donnant un instrument de propagande. » Donc Moynier veut défendre ce qu'il appelle la cause africaine de Léopold II, ne trouvant pas d'écho auprès des autorités helvétiques qu'il sollicite, il va à titre privé lancer avec succès ce périodique et il se charge lui-même de présenter aux futurs lecteurs de cette première revue de langue française à couvrir le vaste champ de l'exploration et de la civilisation, entre guillemets, de l'Afrique subsaharienne. Voilà comment il présente cette revue. À ses yeux, la création du mensuel se justifie en raison de l'importance capitale qu'il attribue à l'œuvre africaine. Cette œuvre assignée, il y a toute une série de guillemets ici. Cette œuvre assignée à la race blanche réclame un organe propre qui fasse connaître le continent dans tous ses détails et qui lui gagne les sympathies du plus grand nombre. Alors, je vous ai dit que cette revue, L'Afrique explorée et civilisée, est un périodique de qualité. Si vous, par hasard, vous venez à le consulter, vous y trouverez énormément d'informations. Souvent de première main, ce sont des voyageurs qui rendent compte de leur itinéraire, ce sont des explorateurs, ce sont des scientifiques, il y a des comptes rendus, très rigoureux, au fond et avant la lettre, c'est une revue de nature académique, scientifique, très sérieuse. Voilà. Et c'est la seule revue dite coloniale qui possédait la Suisse. Donc ça c'est la première initiative de Moynier pour défendre ce qu'il appelle la cause léopoldienne ou l'œuvre africaine. La deuxième initiative, il imagine un autre moyen devant permettre, je cite, au petit pays qu'est la Suisse, d'apporter, c'est la suite de la citation, sa pierre à l'édifice africain. La Suisse ne pourrait-elle pas jouer un rôle d'arbitre dans la colonisation de l'Afrique en la réglementant? Alors ça, c'est une approche typique de Genève et des intellectuels, comme on dirait aujourd'hui, de l'époque. Donc, en septembre 1883, lors d'une réunion à Munich de l'Institut de droit international qu'il a fondé, Moynier présente un mémoire dans lequel il propose une neutralisation du bassin du Congo ainsi que l'instauration dans la région de la liberté de navigation et du commerce. Ceci afin d'éviter que les rivalités entre colonisateurs européens n'y dégénèrent en conflits armés. Nous sommes à un moment où les puissances européennes essayent de se partager l'Afrique. Il y a évidemment des frictions, des rivalités, et le juriste, au fond, international qui est Moynier, imagine une formule qui est celle de l'internationalisation ou de la neutralisation de cette région, cette partie centrale de l'Afrique, et en même temps, évidemment, puisque la Suisse, la petite Suisse, comme il dit, n'est pas ni protectionniste, ni monopolistique, il imagine une liberté de navigation et de commerce. C'est-à-dire, on ouvre le Congo à tout le monde, et on le neutralise. Je crois que c'est une idée intéressante, elle n'est pas nouvelle, mais elle est intéressante, et c'est la deuxième initiative qui est proposée par Moynier. Léopold va s'empresser, dès le début des années 1890. Si vous voulez, ici il y a un jeu entre Léopold II qui est assez manœuvrier, et je dirais machiavélique, et Gustave Moynier, dont on pourrait dire qu'il est de bonne foi, mais peut-être qu'il ne voit pas le jeu. Ou alors il le voit. Ça, on ne le sait pas. Toujours est-il que Léopold II va se servir et de ce que Moynier appelle un instrument de propagande, à savoir la revue, et il va se servir de cette idée d'internationalisation avancée par Moynier comme d'un leurre, lui donnant toute latitude pour atteindre son but initial. Léopold II n'a qu'un but, c'est de faire du Congo sa colonie privée. Ouais. Son jardin privé. Et de fait, par décret royal, donc vous voyez, il y a quelque chose de très autoritaire ici. Par décret royal, le monarque proclame le 29 mai 1885 la création de ce qui est son domaine privé, mais qu'il appelle, ironiquement pour nous, l'État indépendant du Congo, institué comme son domaine privé, géré selon des critères purement financiers. Alors, ici on arrive à un point sensible, je dirais. Et les biographes de Moynier sont mal à l'aise quand on aborde ce point. Le roi des Belges fait preuve de fourberie. Il déguise son entreprise de colonisation en œuvre désintéressée de civilisation. Il semble que cette fourberie ne trouble pas beaucoup Moynier. Tout au plus, écrit-il, émet-il des réserves sur le manque de transparence de ce qu'il ne veut pas dénoncer comme un tour de passe-passe. Il y a quelque chose de plus étonnant encore. Moynier porte publiquement au nu le nouvel État, créé par Léopold II pour son propre compte, et il le fait dans une communication qu'il lit en 1887. Là, les dates sont importantes. Il faudra la retenir, celle-là. En 1887 à Paris, devant le prestigieux Institut de France. Moynier y présente le coup de force du monarque belge comme un acte de bienveillance, de redressement et de progrès. Il n'a rien à redire à la forme particulière de gouvernement donnée au Congo. Le roi Léopold, rappelle-t-il, en est le monarque absolu. Celui-ci veut croire Meunier saurait s'occuper avec bienveillance de ses nouveaux sujets. De plus, dans sa grande générosité, le souverain ouvrirait son Congo gratuitement à la communauté internationale. C'est l'idée de l'internationalisation, de la neutralisation, de la liberté de commerce et de navigation. Or, et tout le monde le sait aujourd'hui, et les historiens le soulignent, jamais dans l'histoire de la colonisation européenne, l'écart n'aura été aussi grand entre ce qui est affiché, annoncé au niveau des intentions et des méthodes effectivement utilisées. Ce sont des méthodes extrêmement brutales d'exploitation. Cet écart apparaît et de nouveau ici votre attention aux dates, cet écart apparaît aux yeux du monde à partir du début des années 1890, date à laquelle est mise en place au Congo un système de pillage d'une dureté sans pareil. Léopold II, à partir de ce moment-là, il va faire tout le contraire de ce qu'il annonçait. Il va s'empresser de contourner l'engagement pris de garder l'État indépendant du Congo ouvert à la liberté du commerce et de circulation. C'est un faux champion du libre-échangisme et il se hâte d'instaurer dans son domaine un système de monopole. De fait, le modèle léopoldien repose entièrement sur la recherche du profit immédiat et maximum. Celui-ci est obtenu en soumettant les populations congolaises à un régime d'exploitation impitoyable et déprédateur. Déprédateur, c'est-à-dire c'est l'exploitation de richesses sans le remplacement. C'est en écrème, c'est la récolte du caoutchouc, probablement vous le savez, sans remplacement des arbres qui sont saignés, et c'est la récolte de l'ivoire. Évidemment, il n'y a pas de renouvellement possible après un certain temps. Les historiens les plus mesurés, aujourd'hui, ont qualifié ce système d'inhumain. Les abus révoltants dont le système léopoldien est la source sont dénoncés dans le cadre de campagnes internationales. Il y en a eu aussi à Genève, après les années 1890. Leur virulence va inciter la Belgique à annexer, c'est l'État belge à ce moment-là, qui annexe le Congo et démantèle le modèle léopoldien. Nous revenons maintenant à l'embarras. Gustave Moynier s'est entiché d'un projet colonial qui, sous couleur de mission civilisatrice, aboutit à un système d'exploitation qui heurte les principes d'humanité dont il se prétend le défenseur. À aucun moment, il ne s'associe à ceux qui, en Europe occidentale, et en Amérique du Nord dénoncent, sur la base de témoignages accablants, les excès du régime léopoldien à partir des années 1890. Jusqu'à sa mort, Moynier garde le silence. Pas un mot sur la mise à sac de régions entières, ni sur les mutilations pratiquées sur les indigènes qui n'atteignaient pas le quota imposé de production de caoutchouc. C'est un épisode embarrassant. Alors, comment est-ce que les biographes de Moynier s'y prennent? De deux manières. Là, nous allons retrouver les dates que je soulignais tout à l'heure. La première façon de présenter les choses, mais ça n'enlève pas l'embarras, mais ça permettrait de comprendre, c'est que cet épisode est mineur dans la trajectoire de Moynier. Je vous ai dit que lorsque Moynier s'intéresse à l'Afrique, lorsqu'il écrit, lorsqu'il publie, lorsqu'il s'engage, c'est quelque chose qui fait partie d'un ensemble vaste. Ce n'est pas au premier plan. Alors, certains biographes vont minimiser cet épisode en mettant en avant la figure de bâtisseur méthodique et opiniâtre du droit humanitaire international qu'est Moynier. D'autres, c'est un peu plus subtil, ce sont des historiens, vont l'exempter de ce que certains appellent sa duplicité dans l'affaire du Congo, en soulignant que lorsqu'en 1887, vous vous souvenez, à Paris, devant l'Institut français, il défend publiquement l'œuvre africaine de Léopold II. À ce moment-là, en 1887, la situation en Afrique centrale n'est pas celle qui, quelques années plus tard, sera dénoncée comme révoltante. Donc, lorsque Moynier publiquement défend le projet colonial de Léopold, il n'y a pas encore les témoignages sur lesquels vont se reposer les campagnes internationales qui dénoncent le modèle léopoldien. Quelque chose que l'on pourrait, que personnellement j'appelle une dissonance. Lorsqu'on consulte les écrits, lorsqu'on se penche sur la trajectoire de Moynier, que l'on compare, comme je l'ai fait dans le livre dont vous connaissez l'existence, où apparaissent beaucoup de figures genevoises, puisque le livre s'appelle « De Rousseau à Dunant », donc il y a évidemment ces deux personnalités, il y a évidemment Moynier, mais il y a aussi Sismondi, il y a deux représentants illustres de la famille de Saussure, etc. Pour Moynier, il y a quelque chose qui pose un problème et qu'on n'arrive pas très bien à s'expliquer, à comprendre. Donc, si vous voulez, en deux mots, après j'irai dans mes notes et puis je vous donnerai quelques détails. Mais en deux mots, Moynier était quelqu'un de très connu, respecté et célébré au moment où il a vécu, mais pas aujourd'hui. Si on le compare, pour prendre des exemples, donc évidemment à Genève, Calvin, Rousseau, Dunant ou le général Dufour, Moynier n'occupe pas dans la mémoire des Genevois la même place que ces personnages. Et c'est ça qu'on ne comprend pas très bien. Alors je vais vous dire autre chose, parce que Moynier est célébré à Genève. Mais il n'a pas la même place. Alors comment est-il célébré? Rappel, parce qu'il faut le dire, Il y a des marques officielles de reconnaissance à Genève. En 1989, une sculpture, elle existe toujours, parce qu'aujourd'hui, avec les monuments, on ne sait jamais. Une sculpture de son buste est inaugurée au Parc des Bastions. L'année suivante, ses cendres sont transférées au cimetière de Plainpalais, dit des rois. Le panthéon genevois, entre guillemets, où sont inhumées les personnalités ayant honoré Genève de leur vivant. Monnier est docteur honoris causa de l'Université de Genève. Il a créé un fonds destiné à financer l'abonnement à des revues de sciences sociales. Ces revues sont consultables aujourd'hui à la Bibliothèque de Genève, dans une salle des périodiques qui, depuis 1905, porte le nom de Moigné, où j'ai usé mes culottes d'étudiant. Donc, je termine avec cette dissonance. D'un côté, une envergure, quelque chose dans ses activités et ses œuvres d'imposant, un épisode que l'on peut expliquer de différentes manières, mais dans la mémoire collective des Genevois, quelque chose qui fait qu'il reste en retrait. Merci. Merci.